Critique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 22 février 90.
Il paraît que vous avez pataugé énormément lorsqu'il s'agit de voir la différence entre la critique et la logique. Quels sont ceux qui ont compris? Il n'y en a qu'un. Bon, alors ça va. Les autres, je peux recommencer pour les autres rapidement, tu vois, je peux pas insister trop. Ce qu'il faut comprendre, c'est que logique et critique représentent deux attitudes, représentent une attitude intellectuelle, philosophique, tout à fait différente de tout le reste de la philosophie. Déjà, en philosophie, la philosophie pratique, qu'Aristote appelle la philosophie humaine, est très différente de la philosophie spéculative. Et dans la philosophie spéculative, la théologie naturelle est encore différente. Donc vous avez une diversité, c'est pas du tout univoque. Chaque partie de la philosophie a sa méthode propre. C'est ça qui est compliqué pour nous. Et la méthode consiste simplement à l'ordre de la recherche des causes. Mais chaque partie de la philosophie a sa méthode propre. Et alors, il y a cet accompagnement de la philosophie. Je dis bien cet accompagnement qui est cette attitude réflexive. L'intelligence philosophique a cette particularité d'avoir cette lucidité dans sa recherche. Le philosophe doit pouvoir à chaque instant ce qu'il dit, le critiquer. Si on l'attaque, si on lui pose des colles, à chaque instant, il doit pouvoir dire, eh bien oui, je dis ça à cause. Autrement, c'est pas philosophique. La philosophie est sagesse. Donc, elle doit pouvoir faire ça. C'est difficile, ça met du temps. C'est bien évident. Mais c'est en même temps merveilleux. Vous trouverez ça quelque chose d'analogue chez le grand mathématicien. Mais on peut très bien l'interroger toujours. Il vous montrera. Mais pas de la même façon du tout. Par rapport à son système, il montrera ça de façon admirable. Alors, dans cette attitude réflexive, il y a deux aspects. Ce qu'il y a de particulier à ma démarche intellectuelle. Je dis bien ce qu'il y a de particulier à l'organisation propre de la philosophie. Pour saisir, si je peux découvrir le fondement, ce sur quoi repose tout l'édifice philosophique, la pierre fondamentale sur laquelle tout l'édifice philosophique repose. Cherche à découvrir justement l'élément fondamental de toute ma pensée philosophique. Et vous comprenez tout de suite qu'est-ce que sera cet élément. Cet élément sera le concept d'être, la ratio entis, correspondant à ce concept d'être. Avec ce concept d'être, tout se ramène à ça. Et avec ce concept d'être, les transcendentaux. Ça, c'est la critique ramène tout à cela. Et alors, parallèlement à la critique, il y a la critique des autres systèmes philosophiques. Pourquoi je choisis la philosophie réaliste? C'est pas parce qu'Aristote l'a prise. Non. J'aime Aristote parce qu'il est réaliste. Je n'ai pas l'inverse. Je n'aime pas le réalisme parce que j'aime Aristote. J'aime la vérité. Et la vérité, je la découvre dans une philosophie réaliste. Et j'essaie de comprendre tous les nœuds devant lesquels se sont heurtés les philosophes, leur a priori. Le philosophe ne doit pas avoir d'a priori, mais il en a toujours un tout petit peu, mais il ne devrait en avoir aucun. C'est ça qui s'intéresse à tout. Tout l'intéresse. Et il irait voir un cyclope, un œil. C'est comme le gosse qui se confessait au curé d'Ars. Il était comme ça. Qu'est-ce que tu regardes? Ton œil. c'est l'être de raison. Tandis qu'au contraire, l'objet propre de la philosophie, c'est le réel existant. Et ce réel existant, dans sa fine pointe, là où il est le plus lui-même, c'est ma pensée philosophique. Je ne dis pas mon amour philosophique, mais ma pensée philosophique et ma contemplation philosophique. Ma contemplation de sagesse acquise. Et la critique, elle est entre les deux. Cet universel comme qualifiant votre pensée, comme qualifiant votre langage. Faites l'analyse du langage, vous trouverez tout de suite l'universel. Il est présent dans l'universel, il est présent dans tous les attributs. Alors que les noms, ah les noms, ah, Pierre, c'est un nom. Pierre, non, il n'est pas universel. Parce que tous les hommes ne s'appellent pas Pierre. Tous les hommes ne sont pas Pierre. C'est un terme individuel. Et dans le langage, vous savez bien. Tandis que homme, ah oui, oui. Animal, oh, c'est encore plus nombreux que les hommes. Puisque l'homme est animal, il fait partie de cette famille particulière. Vous voyez, le jeu des familles, hein, c'est, l'homme fait partie de cette famille animale. Et dans ces familles animales, il y a le singe à côté, et puis il y a le bœuf et l'âne. Vous savez, l'anime, vous savez, Donc, vous voyez, vous étudiez ce qui apparaît une fois que c'est connu. Et ça n'existe que dans mon intelligence, ma pensée intérieure ou ma parole, qui est liée à mon concept, qui est liée à ce que je pense. Parce que normalement, quand je parle, j'ai pensé. Évidemment, je peux parler comme un perroquet. Le langage du perroquet, c'est le langage du humain. Répétez, le perroquet ne pense pas à l'universel, parce qu'il est perroquet. Alors il répète. Dans la répétition, il n'y a pas d'universel. Mais le terme glissaire est universel, parce qu'il a été pensé d'abord par l'homme. Avant le perroquet, existait l'homme. Autrement, il ne pourrait pas être ce qu'il a de particulier. Est relatif à l'homme. Il répète ce que dit l'homme. Alors, vous avez donc un terme universel pensé par l'homme. Et le langage est fait de cela. L'abîme qui existe entre les deux, entre ces deux extrêmes, ce qui est et l'être de raison, la relation. Comment ça se fait, ça? D'où vient l'universel? Comment l'universel apparaît? Pourquoi est l'universel? Pourquoi c'est nécessaire que l'universel apparaît? Pourquoi il est nécessaire que la logique existe? Il faut donc réfléchir sur ma manière de connaître. De penser. n'existerait pas s'il n'y avait pas l'universel. Il n'existerait pas. Et la logique étudie justement ce qui permet au langage d'exister. Vous voyez, vous allez comprendre, j'espère, tout de suite. Il y a une analogie constante entre le langage et la monnaie. Ça, c'est pour les économistes. Avant la monnaie, il y avait le troc. Je vais au marché avec des petits veaux, des petits cochons. Puis j'ai besoin quand même de vêtements. Alors je vais faire le troc. Il a fait des vêtements, moi j'ai des petits cochons. Alors on va voir combien de petits cochons dans les poches. Pour faire le troc. Alors c'était très difficile, vous comprenez, parce que ça ne s'ajustait jamais exactement. Alors on a inventé la monnaie. La monnaie a quelque chose d'universel. Il y a une mesure, toujours, plus ou moins réaliste, l'or, si on est soviète. C'est l'or, vous allez voir le dollar qui va vite. Ou le dollar. Il y a des choses comme ça. C'est très curieux, c'est très intéressant de voir ça. Et alors le langage, c'est la même chose. Quand vous ne parlez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous indiquez. Alors si je voulais faire un cours de métaphysique, sans parler, vous voyez toutes les pièces que je devais avoir dans ma poche. On voit des gestes. Mais quand vous regardez de ceux qui ne parlent pas, mais même là encore, il y a eu le langage avant eux. Il n'y aurait pas le langage. Alors on montre tous les objets. Parce qu'il y a la pensée universelle, il peut y avoir une monnaie, le langage. Le langage permet la communication beaucoup plus rapide. Et la monnaie permet la communication, la vente, beaucoup plus rapide. Grâce à la monnaie, on peut faire un commerce intense. Alors comme on falsifie la monnaie, on falsifie le langage. C'est très très curieux, et c'est très intéressant à voir le parallélisme entre les deux. C'est très différent, c'est un parallélisme analogique, hein. C'est tout à fait différent, mais c'est quand même quelque chose qui permet le passage, la communication, la philosophie de la communication, comme on fait aujourd'hui, ou la théologie de la communication. J'ai connu un père qui avait fait une thèse de doctorat sur la théologie de la communication. Mais le grand prêtre, il construit des ponts de communication. Deux abîmes qui vont rejoindre, alors Pontifex, c'est la communication. Et la communication la plus simple, c'est le langage. Et la monnaie permet une communication. Très fou. les prolongements du concept est dans la parole. Alors, l'essence, deuxièmement, usage de l'universel. Bon, l'usage de l'universel, vous l'avez dans le jugement. Saisir la quiddité de la réalité. Les cinq prédicats. C'est très curieux, les cinq prédicats. Mais les cinq tuteurs qui aboutissent de fait à la définition. Qui implique la division. Donc j'étudie tout ça dans la première opération d'esprit. Naissance de l'universel. Donc les cinq prédicables qui aboutissent à une définition, une certaine définition. C'est une œuvre logique, la définition. J'ai besoin de définir pour voir clair. Ça va jusque dans le dictionnaire, vous voyez. Le dictionnaire est à base constamment de logique. Un bon dictionnaire est très logique. Un mauvais dictionnaire n'est pas logique. Besoin de logique pour parler clairement, pour définir. Mais définissez-moi ça. Ben, si vous savez absolument rien de logique, vous n'aurez pas bafouillé. Vous décrivez et puis vous ne vous définissez pas. Il faut pouvoir définir. Or, pour pouvoir définir, il faut diviser. On divise, on sépare. Alors, la division est toujours le fruit d'une certaine analyse. Donc, vous étudiez tout ce qui est proche de l'universel. Tout ce qui est en connexion avec l'universel, cet être de raison, vous utilisez cet universel dans votre jugement. Seconde opération. Le jugement. Troisième opération. Le raisonnement. Oui. Les trois opérations d'esprit que vous découvrez, que vous critiquez en critique, font façon, regardez, logique formelle, logique matérielle. En réalité, je crois que si on fait une bonne critique, alors on a la logique tout court. Parce qu'elle est toujours formelle matérielle. L'universel implique toujours compréhension et extension. C'est le propre de l'universel. Toujours. C'est vrai, animal, il y a la compréhension. Qu'est-ce que ça signifie? Ça prend le point de vue générique. L'universel fondamental. La compréhension et l'extension. Plus vous avez un universel qui s'étend à beaucoup, plus il diminue nécessairement en compréhension. Et là, c'est très curieux, les deux aspects de l'universel. Donc vous voyez que logique et critique se tiennent. Mais normalement, pour bien préciser la critique, il faut voir ces deux extrêmes. Plus immédiatement intelligible. La philosophie, la logique, et l'entre-deux, la critique. Mais la critique a aussi une extension qui est égale à toute l'extension de la recherche philosophique. Et la critique et la logique vont être dépassées par la sagesse. La sagesse, connaissance de sagesse est au-delà de la logique et au-delà de la critique. Elle n'existe qu'au niveau philosophique. Critique et logique sont au niveau de la science. La contemplation n'est pas logique. Ce n'est pas une connaissance pure, puisque c'est une connaissance de ce que je suis capable de créer. l'univers absolu, c'est une cause qui est donnée immédiatement à partir de l'universel, que je constate l'abstraction. Condition sine qua non, c'est plutôt une condition sine qua non qu'une cause. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une science très spéciale. C'est une science et un art. Et c'est le seul cas où il y a science et art. Mais c'est justement ce qu'il y a de tout à fait particulier à la logique, qui ne peut se comprendre que de l'intérieur. Et je crois qu'on comprend la logique si on est philosophe. Et la logique mathématique, c'est très à côté. Parce que on ne regarde que la fonction. On ne voit plus ce qu'il y a de tout à fait propre à la logique. C'est justement cet être de raison. Universel. Et ça, je crois que... Autrement, vous voyez, on étudiera des règles de logique sans comprendre du tout la plus grosse règle du syllogisme et tout ça. Mais c'est très secondaire par rapport à la logique, ça. C'est très intéressant au point de vue pratique, au point de vue efficacité, mais c'est très secondaire, c'est pas ça qui m'intéresse dans la logique qui est là pour me permettre d'avoir une pensée plus précise, plus rigoureuse. C'est de comprendre d'où ça vient, cet être raison, qu'est-ce qu'il est. Et ne jamais confondre l'être réel et l'être raison. Ne jamais confondre l'être intentionnel, la forme intentionnelle, et l'être réel, et l'être de raison. Oui. Parce que, si vous comprenez bien ces trois aspects, vous aurez un point de vue mathématique qui va impliquer l'intentionnalité, l'être raison, et l'être réel. L'être mathématique fait une synthèse des trois. L'être mathématique a un fondement réel. Il est formellement intentionnel. Il est lié à la relation de raison. Et s'il n'est pas la relation de raison, l'être mathématique implique une synthèse des trois. C'est un être symbolique, l'être mathématique.
Oui. La philosophie respecte la logique, mais elle va beaucoup plus loin dans de la signification.
La philosophie utilise la logique et elle en même temps elle la respecte parce que ça fait partie des lois fondamentales de l'intelligence humaine d'abstraire, et parce qu'elle abstrait, le philosophe sait grâce à la logique, dans la mesure même où sa logique est plus actuelle, que ce qu'il dit et donc ce qu'il connaît n'est jamais adéquat au réel. Parfaitement adéquat. Oui.
Entre métaphysique et logique.
La métaphysique étudie ce qui est en tant qu'être. Et la logique étudie l'universel, l'être raison. Pour lui-même, c'est le propre de la logique d'étudier pour lui-même. La critique situera l'être raison, mais il ne l'étudie pas pour lui-même. Les prédicables font pas partie de la critique. Ils font partie là de la... vraiment de la logique. Et s'il fallait jusqu'au bout pour saisir toutes les règles de la logique, il faut tout le temps regarder les prédicables. Mais voyez, je suis là dans l'ordre du comment logique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de principe au sens absolu. C'est l'utilisation de l'être de raison.
La relation de raison, c'est pas une fonction. Quelle différence vous faites entre le...
C'est un être de raison.
Et l'universel, est-ce qu'il n'est pas une fonction?
L'universel est une fonction. Mais l'universel n'est pas uniquement une fonction. Parce que, vous voyez, j'ai dit relation exprès. Parce que quand j'étudie la relation, je sais que la relation est inséparable de son fondement. Quel est le fondement de l'universel? C'est le concept. Et donc je ne peux pas séparer l'universel du concept. Vous voyez? Et c'est là le drame de la logique mathématique. La logique mathématique et les grands matheux, n'aiment pas la logique mathématique. Parce que dans les mathématiciens, vous avez toujours les deux groupes, vous savez bien, ils se renvoient la balle, de toute façon. Il y a les intuitifs et les racines, ceux qui raisonnent tout le temps. Les amis du raisonnement et les amis de l'intuition. Il faut regarder Poincaré, Henri Poincaré, sur l'intuition mathématique. Il dit ça admirablement. Et là, on voit très bien, c'est ça, les grands maîtres, les intuitifs. Alors, c'est justement le fait que la relation a toujours un fondement. Et ce fondement donne le caractère spécifique à la relation. La relation, comme telle, dans son exercice de relation, peut avoir quelque chose de fonctionnel. Mais la relation, dans son fondement, n'est plus uniquement fonctionnel. Elle vient dans l'être de raison. L'être de raison naît toujours d'une connaissance intellectuelle, abstraite. Elle se fonde sur le concept. L'être de raison se fonde sur le concept. Et donc, je ne peux pas séparer, je distingue, mais je ne peux pas séparer l'universel du concept. Tout ça, quand Marie-Thin dit logique du concept, vous voyez, c'est vrai matérialitaire, fondamentalement, c'est pas vrai formellement. Parce que l'universel se fonde tout le temps sur un concept. Et parce qu'il se fonde sur un concept, je ne peux pas le séparer. Je ne peux pas séparer ce que Dieu a uni. Il a uni les deux. Dieu, dans sa sagesse, a uni le concept et l'universel. Et la vraie logique, celle d'Aristote, parce que c'est la vraie, celle de Port-Royal a simplifié énormément. Il y a plusieurs types de logique, c'est intéressant. Occam a voulu donner un nouvel organon. Parce qu'Aristote parle de son organon, instrument. Il a donné un nouvel organon, je vous l'ai dit. C'est intéressant, regardez, si on avait le temps, on ferait de l'organon d'Occam, parce qu'on verrait là toutes les erreurs modernes, elles sont présentes dans la logique. Et après vous, j'avais pris exprès la logique d'Occam, parce que j'avais un des professeurs. Un de mes collègues, professeur de philosophie, qui était entièrement logicien, logique mathématique, pour lui avec ça, à la suite du père Borinsky. Le père Borinsky avait écrit un livre il y a 20 ans, en disant dans 10 ans, prophétiquement, dans 10 ans, il n'y aura plus que deux types de philosophes, les logiciens, logique mathématique, et ceux qui restent à la vieille logique. Parce que pour lui, la logique mathématique, c'est la philosophie. Dans son ultime conséquence, il n'y a plus rien du tout. L'ordinateur peut remplacer le philosophe. La logique mathématique aide l'ordinateur. C'est évident, c'est le langage de l'ordinateur. Le langage d'efficacité pure, de fonction pure. Je ne peux pas dire que l'être de raison est une fonction pure, parce que c'est une relation de raison. C'est un être de raison. Et là, je montre le fondement, qui est le concept. Donc il y a une signification. Et grâce à cette signification, je peux montrer la compréhension de cet universel. Tandis que dans sa fonction pure, je ne peux plus.
Où est-ce que ça se situerait une réflexion qui regarderait la proportion entre un raisonnement purement logique et le réel, l'adaptation entre... Ouais.
Oui, tout le temps. Mais il y a beaucoup de critiques dans l'organone. C'est très philosophique, son organone. Et il y a constamment un point de vue critique. Vous voyez, quand il prend le raisonnement des quatre catotaux, hein, que vous devez savoir par cœur, les quatre RC, mais ça c'est de la